Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur ce premier bulletin météo de Météo Bassine. Alors, pour commencer tout d'abord, une mégabassine, c'est quoi ? Une mégabassine, c'est un cratère géant creusé dans la roche, roche qui est ensuite concassée pour ériger des digues d'une dizaine de mètres, le tout étant recouvert d'une bâche de type chambre à air. Alors, avec quoi remplit-on ces bassines ? Eh bien, pas avec une danse de la pluie, non, mais avec des kilomètres de tuyaux pour acheminer l'eau pompée dans les nappes phréatiques et les rivières avoisinantes, tout simplement. On recense actuellement environ une cinquantaine de mégabassines sur l'Hexagone. Les premières se sont déployées il y a une quinzaine d'années, d'abord en Sud-Vendée et Nord-Charente-Maritime, avant de se déployer dans la Vienne et tout récemment dans le Berry. On recense également des mégabassines dans l'Est, dans les hautes montagnes, des mégabassines des neiges pour fabriquer de la neige d'en bas, puisqu'il n'en tombe plus d'en haut. Depuis le Varenne de l'eau et selon le préfet Vaud actuellement en tournée partout en France, on s'attend à la multiplication des projets dans le Poitou-Charentes, le Grand Est, le Berry, mais aussi probablement l'Île-de-France et la Limagne. Si vous avez de quelconques informations ou arrivez à pister le préfet Vaud, n'hésitez pas à nous envoyer vos informations à l'adresse meteobassine@riseup.net. Rien n'est moins sûr que ces prévisions. Et oui, c'est la météo. Puisqu'on observe des précipitations anti-bacycloniques sur l'ensemble du territoire. Ce ne sont pas moins de 9 bassines qui sont passées de la vie au trépas cette dernière année, dans les Deux-Sèvres, en Charente-Maritime et dans la Vienne. Et depuis cet été, en Vendée, avec la disparition des deux plus grandes bassines jamais construites, à Naillé et Pouillé. C'est peut-être la naissance d'un nouveau sport national. Côté tendance pour les semaines à venir, on observe du côté de Sainte-Soline, entre Niort et Poitiers, la tentative de construction de la plus grosse bassine jamais construite. 16 hectares, 720 000 mètres cubes d'eau. Mais, vigilance rouge. Il semblerait que tout l'Hexagone converge vers le chantier pour y mettre un terme définitif. Si vous voulez rejoindre cet ouragan citoyen, suivez l'information sur le site des soulèvements de la terre ou de Bassine Non Merci.
On a un modèle breton ébloui par le culte du progrès technique.
On veut aussi que l'Europe arrête de subventionner en fait l'agrandissement des élevages.
Un système qui industrialise le vivant et qui nous fait aller droit dans le mur.
On continue à construire des trucs à la con, mettre du bitume partout et...
Tous les mardis, on vous propose de diversifier vos placements. Vous pouvez notamment acheter des forêts pour enraciner vos placements.
Du pain et des parpaings.
Lutte contre l'accaparement des terres en Bretagne et ailleurs.
Comme on dit, hein, fin du mois, fin du monde, il y a quand même une passerelle qui a été lancée.
Si on veut un monde meilleur, il faut déjà qu'on ait un monde.
Eh bien, salut tout le monde et bienvenue dans Du pain et des parpaings, la 4e émission. Donc, c'est une émission mensuelle sur les luttes contre l'accaparement des terres, la gentrification, l'agro-industrie, le capitalisme vert, le pourrissement des écosystèmes, le colonialisme et l'extractivisme des corps et des matières.
Pour cette émission numéro 4, on va parler d'eau.
On a écouté juste avant le générique le son d'une vidéo du collectif Bassine Non Merci qui proposait un petit bulletin météo des constructions de bassines mais aussi des actions de lutte qui stoppent ou freinent les projets en cours.
On a voulu partir de cette action des soulèvements de la mer contre les mégabassines qui s'est déroulée en octobre dernier pour parler de la ressource en eau en général mais aussi des enjeux écologiques et financiers que cela soulève notamment par rapport aux politiques publiques qui soutiennent une agriculture intensive, productiviste et polluante depuis l'après-guerre pour... j'ouvre les guillemets, nourrir le monde et qui s'accapare les ressources en eau.
Oui, des soulèvements de la terre hein, et pas des soulèvements de la mer. Mais on va parler de l'eau. On va aussi évoquer les alternatives possibles au modèle actuel de répartition de l'eau et d'irrigation des terres agricoles.
Sur le plateau ce soir, on a Kevin,
Caroline,
Romain,
Marion,
Baptiste,
Virginie
et Luc.
Et voilà nos 3 invités de ce soir.
Du collectif Bassine Non Merci 29.
Alors on va écouter tout de suite l'action de Sainte-Soline de l'intérieur pour découvrir ce que sont les mégabassines et parler des revendications politiques des manifestantes et manifestants, avec quelques prises de parole. Et puis on reviendra et on prendra le temps d'expliquer dans les grandes lignes les politiques de gestion de l'eau en France.
On est dans quelle région là ?
Dans le département des Deux-Sèvres.
On est dans les Deux-Sèvres, ok.
On est où ? Bonjour à tous.
Bonjour.
Je vais vous faire un petit mot de bienvenue au nom du collectif Bassine Non Merci, qui est né en août 2017. C'était les 30 ans de la conf. On est parti de là et on a été rejoint par les soulèvements de la terre à Mosée. Donc ça, c'était en septembre 2021. Et de là, la lutte s'est quand même grandement amplifiée. Je pense qu'on a l'exemple d'une magnifique convergence des luttes à travers cette journée, parce qu'il y a des gens du coin, il y a des gens de très loin. On est tous ensemble ici réunis pour une même cause, et ça c'est vraiment extraordinaire, c'est génial. Oui. Donc la bassine qui est en train de se faire creuser là-bas, elle est incluse dans un projet de 16 bassines sur le territoire Sèvres-Niortaise-Mignon. Ce projet des 16 bassines, il coûte 60 millions d'euros. C'est une estimation qui est en train d'être revue, qui a été déjà revue à la hausse. Et sur ces 60 millions d'euros, c'est 70% d'argent public. Le financeur principal, à plus de 50%, c'est l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Et là, ce qui est important de savoir, c'est qu'en tant que consommateur d'eau, à chaque fois qu'on ouvre le robinet, qu'on paye notre facture d'eau, on file des thunes à l'agence de l'eau Loire-Bretagne qui en reverse pour financer ces projets de bassines. Je voudrais partager avec vous une image qui est assez simple et qui permet peut-être de résumer la situation qu'on vit actuellement. C'est que dans les espaces où on se trouve aujourd'hui, hier, c'était des bocages. Ils ont supprimé les haies, les talus, les mares et les paysans aussi. Aujourd'hui, ce sont des plaines et ils suppriment l'eau. Alors quand je dis « ils », faut pas se leurrer, hein, on jette pas la pierre aux irrigants. Derrière, c'est le modèle agro-industriel, l'agro-business soutenu par l'État. Donc ils suppriment l'eau de nos plaines en pompant les nappes et les rivières. Et la terre sans eau, eh ben c'est le désert.
Donc moi je vais vous parler de ce qui va se passer pour la journée de demain, le programme, parce que c'est pas fini, ni demain, ni les jours qui viennent. Donc à 10h du matin, il y a un petit chantier pour ceux qui veulent se mettre en forme, faire un peu de sport. Il y a un chantier construction à 10h du matin pour construire une tour de vigie sur ce même terrain. De façon à ancrer la lutte sur place et se faire une petite cabane quand on veut revenir. On ne dit pas qu'on va installer une ZAD. En parallèle, il y aura des discussions sur la suite de la lutte. Et là, on invite les locaux à voir les perspectives de la lutte en fonction des annonces et des retours de communication qu'on aura eu par rapport aux médias, de tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Et après, on reprend à 14h les travaux pratiques, parce que c'est pas fini. Mais je dis pas ce que c'est, parce que je suis pas complètement non plus à côté de la plaque. Donc, pour les plus déterres qui veulent faire du sport, c'est dimanche, donc on va y aller tranquille quand même, voilà. Mais il y a des travaux pratiques, donc je pense qu'il y aura un appel à un moment donné, se tenir prêt, en tenue, quoi, pour se remettre au travail. Voilà.
Et donc, on vient d'entendre un historique de la lutte à Sainte-Soline. Et est-ce que vous pourriez nous parler des conséquences de cette action qui a eu lieu les 29 et 30 octobre dernier? Nous dire si le chantier a été repoussé ou pas, s'il a été arrêté, s'il y a eu une remise en question d'une façon ou d'une autre de certaines des actions qui avaient été planifiées par du coup les irrigants avec l'appui des politiques publiques.
Alors non, sur la question est-ce que le chantier a été arrêté, il n'est pas arrêté et les machines, les pelleteuses continuent à faire leur vilain travail dans leur cratère infernal. Par contre, il y a quand même une belle victoire sur la manifestation, le rassemblement de Sainte-Soline, c'est que ces machines ont été enlevées pendant 10 jours et le chantier a pu s'arrêter. On peut revenir assez rapidement quand même sur les objectifs de cette manifestation assez historique qu'était Sainte-Soline. Premier objectif, elle était vraiment pour nous de massifier, c'est-à-dire de continuer effectivement à faire en sorte que les gens nous rejoignent, les organisations nous rejoignent, et notamment par rapport au dernier rassemblement qui avait eu lieu en mars au printemps maraîchin, où nous étions 7000. Là, on a quand même réussi, alors après les chiffres, c'est toujours pareil, hein, mais nous, on pense qu'on était effectivement entre 8 et 10 000. Alors on peut dire que ce n'est pas énormément plus qu'au printemps maraîchin, mais il faut bien voir qu'on a eu en face de nous vraiment un dispositif policier avec Madame la préfète Dubé qui, par conférence de presse et autres moyens écrits, s'était juré de faire en sorte qu'il n'y ait pas un manifestant sur le site de Sainte-Soline. Et malgré ça, malgré ce dispositif policier, et je rappelle, il y avait quand même 1700 policiers sur zone, plus 7 hélicoptères, avec des contrôles de partout, on a quand même réussi à avoir entre 8 et 10 000 personnes sur le site. Deuxième objectif, qui était très important pour nous, était qu'effectivement, on puisse avoir un focus très important médiatiquement sur ce rassemblement, pour vraiment faire valoir notre revendication première, qui était un moratoire sur l'ensemble des bassines du territoire. Et je crois que là, le résultat est assez probant. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens sur le territoire maintenant qui ne connaissent pas le petit nom du petit village de Sainte-Soline. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on, au-delà du fait qu'on ait été médiatisé, il y a vraiment, après les déclarations de M. Darmanin sur l'écoterrorisme qui a fait un petit peu le buzz, suite à ça, il y a vraiment le dossier des bassines et du partage de l'eau, de l'accaparement de l'eau, a vraiment été mis sur la table avec des spécialistes. Et là, c'était ce qui nous importait, c'est qu'on arrive à mettre le focus là-dessus.
On va vous demander aussi ce que sont devenus les inculpés, parce que donc il y a eu quand même des arrestations.
Alors les inculpés de Sainte-Soline, qui sont au nombre de 5, hein, à mettre en miroir avec les nombres indiqués par Luc précédemment, risquent aujourd'hui, ils sont passés en première instance il y a quelques semaines, aujourd'hui ils sont inculpés pour 2 à 3 mois de prison, pardon, heureusement pas année, avec sursis, et 3 ans pardon, d'interdiction du territoire des Deux-Sèvres, en sachant que ces personnes sont la plupart originaires de Charente-Maritime, donc le département d'à côté, et on peut imaginer que donc, l'interdiction de territoire concerne aussi le fait de passer sur le territoire pour rejoindre une 4-voies pour aller voir des proches ou autre. Donc c'est une décision de justice, en première instance rude, on peut l'appeler comme ça, qui a été... alors déjà, il faut rappeler que les prévenus ont fait appel, donc cette décision n'est pas définitive. Et pour nous, ça a été vraiment un déni de justice, puisque ces inculpés ont été placés en garde à vue sur le champ, au sens propre du terme, de Sainte-Soline, est retenu du coup avec une volonté de les faire passer en comparution immédiate. Cette comparution immédiate a été refusée par l'ensemble des prévenus et ils ont demandé du coup d'avoir le temps de préparer leur défense. Cette défense, ils ont eu la justice, le parquet leur a offert entre guillemets un mois pour préparer cette défense. Quand il s'agit de faire le procès des méga-bassines et non pas de cinq personnes qui étaient, parce qu'il faut bien le rappeler, le chef d'inculpation est essentiellement, enfin, est uniquement la question d'être présent dans une manifestation illégale. On les accuse pas de jeter des cailloux, on les accuse pas de faire exploser un camion de gendarmerie, on les accuse juste d'être présent dans un champ, en l'occurrence à l'extérieur, enfin en tout cas à la frontière de la manifestation. Et malheureusement, c'était peut-être les personnes, bon, d'après en tout cas leur description, ils étaient plutôt oisifs à ce moment-là, en train de se dire que c'était le moment de prendre un peu de recul. Et ils ont été attrapés parce que isolés, parce que disponible, d'après les gendarmes présents. La préparation, donc l'idée c'était d'en faire le procès des méga-bassines. Le mouvement, mais les inculpés en particulier, on leur a laissé un mois pour se préparer, à mettre en perspective avec des procès retentissants du moment, avec des grands hommes politiques. Certes, les dossiers sont plus complexes, mais on peut attendre de longues années avant d'avoir une première instance. Et donc les jugements se sont faits face à une salle vide, puisque le renvoi a été refusé par le président du tribunal. Une avocate n'ayant pas fait le déplacement, n'étant pas sûre de pouvoir être payée, puisque l'aide juridictionnelle n'avait pas été acquise. Et l'un des prévenus, dont l'avocate n'était pas présente, était encore alité, puisque en arrêt, suite à son tir de LBD dans la tempe, et donc n'a pas pu être présent lors du procès. Ouais. Cette manifestation, il faut bien le rappeler, elle a été déposée par des syndicats, elle a été refusée après un arrêté tombé après coup par la préfecture. Et donc on était tous et toutes présentes sur le droit constitutionnel de droit de manifester. Et sur 7005 ont été inculpés et sont passés aujourd'hui en première instance. On est bien là face à une stratégie répressive du gouvernement qui cherche non seulement à amener la répression sur le champ de Sainte-Soline, mais d'autres des méga-bassines, mais aussi sur le champ judiciaire, où l'idée c'est de rajouter de la pression. On voit bien que là on est c'est bien l'état d'esprit du gouvernement dans le chaos climatique, c'est de rajouter du chaos au chaos, en gros.
Comme disait Baptiste, effectivement, on voit une montée en puissance de la répression tant policière que judiciaire du gouvernement. La circulaire, effectivement, du ministre de la Justice, Dupond-Moretti, est assez claire, parce qu'elle demande expressément au préfet de faire en sorte que les manifestants qui soient arrêtés passent en comparution immédiate, hein, c'est-à-dire que sans véritable défense organisée. Et effectivement, on parle du délit d'association de malfaiteurs. Et ça, c'est quand même quelque chose qui nous ramène à des mauvais souvenirs, c'est-à-dire la lutte de Bure, où on se rappelle que les sept têtes de pont, entre guillemets, du combat ont été arrêtées, avec ce chef d'inculpation, entre autres. Donc là, c'est quand même pas la même donne. On sait que association de malfaiteurs, c'est 10 ans, un réquisitoire de 10 ans et de 150 000 euros d'amende. C'est-à-dire que là, on est vraiment traité comme, en gros,
des éco-terroristes.
Ben voilà.
Voilà.
Donc,
ce qu'on est.
Donc la réponse à ça, pour nous, elle est claire. La seule réponse à ça, c'est de massifier la lutte, encore une fois.
Ok. Alors, donc, on a entendu ce fameux mot d'éco-terroriste, hein, de la part de Darmanin. On va écouter peut-être comment, dans ce chaos médiatique dont tu parlais, Baptiste, suite à ça, il y a eu des interviews sur des plateaux de médias mainstream de Fesneau, donc notre actuel ministre de l'Agriculture. Et puis, il y avait eu peu de temps avant aussi Julien de Normandie qui avait fait un peu des déclarations et puis surtout des explications sur la gestion de l'eau. On va écouter ça, c'est assez marrant.
Julien de Normandie, du coup, qui était le ministre précédent jusqu'en mai dernier. C'est parti.
Je trouve que sur ce sujet-là, il y a une philosophie qui se développe un peu, c'est sur le retour absolu à l'état de nature. Faut tout laisser faire. Sauf que dans un stress hydrique, 1 degré, c'est 500 km de latitude en plus. Ça veut dire que vous aurez le climat de Toulouse à Rennes.
Bon. Dans combien de temps ?
Bah dans les 20 ou 30 ans qui viennent.
Oui.
C'est ce que dit Jack.
Oui.
Hein,
c'est bon.
Quand le climat change comme ça, vous allez avoir des territoires qui vont être plus en stress hydrique. Reconnaissons, c'est pas pour dire du mal de la météorologie en Bretagne, mais reconnaissons qu'en Bretagne, ils connaissaient moins le stress hydrique que dans d'autres régions. Par exemple, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, ça doit nous appeler à réfléchir, dès lors que la quantité d'eau qui tombe chaque année est la même, à réfléchir à des systèmes qui soient économes en eau, d'une part, et en même temps qui nous permettent d'avoir de l'eau. Parce qu'on dit maïs, mais moi, j'ai beaucoup de cas et beaucoup de témoignages cette année sur les prairies.
Ça,
savez, quand on parle de la gestion de l'eau, on oublie par simplisme, par facilité, on oublie véritablement ce qui est en train d'être fait. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'aller dans une rivière pomper de l'eau comme ça sans se poser aucune question. Ça n'est pas vrai. D'ailleurs, les autorisations ne seraient pas données. Quand vous avez une nappe phréatique qui est pleine, quand vous avez un sol qui est gorgé d'eau, donc quand vous êtes dans un cas, somme toute, assez récurrent aujourd'hui, on l'a vu encore dans notre pays l'hiver dernier, où vous avez eu des pluies diluviennes à de multiples reprises. Cette eau-là, cette eau en plus, de manière assurée, elle ne revient pas dans la nappe phréatique, de manière assurée. Et donc, ne peut-on pas, dans notre pays, avoir des consensus en se disant...
Alors, malgré ces discours plus ou moins convaincants, on voit bien qu'en face, il y a une mobilisation qui est quand même massive. Et justement, connaissant l'ampleur de ces mobilisations, quelles conséquences on peut espérer attendre de ces mobilisations ?
Eh ben, ce qu'on peut espérer, c'est qu'on soit de plus en plus nombreux et nombreuses. Encore une fois, si on fait le parallèle avec Bure, je pense que là où ça commence à être un petit peu compliqué pour le gouvernement, et on espère qu'ils ne feront pas le même scénario qu'à Bure, c'est qu'aujourd'hui, on est en face d'eux, et on n'est pas tout seul. On a quand même 150 organisations, partis politiques, associations et syndicats qui nous soutiennent, qui ont signé l'appel de Sainte-Soline, qui vont signer aussi, et ils seront encore plus nombreux, l'appel du 25 mars, et on va y revenir sur cette date. Donc voilà, en fait, c'est encore une fois créer ce rapport de force avec vraiment des forces vraiment différentes qui apprennent à travailler ensemble et qui convergent vers une même idée, un même combat qu'est le partage de l'eau.
On peut peut-être espérer aussi que les différentes sécheresses que l'on a connues cet été partout en France métropolitaine puissent convaincre sur les effets du changement climatique, qui était aujourd'hui une notion un petit peu floue pour beaucoup de Français et de Françaises, et puis globalement un peu partout dans le monde. On en parle depuis des dizaines d'années, mais c'était absolument pas concret dans nos vies, on peut dire ça comme ça. Aujourd'hui, il y a eu quand même des changements qui étaient assez... prégnant en Bretagne, notamment avec des sécheresses aussi qu'on n'avait jamais connues, des incendies un peu partout. Est-ce que ça pourrait pas être aussi un levier pour mobiliser des citoyens, des citoyennes qui étaient peut-être pas forcément convaincus ou concernés par ces questions-là et que du coup les gens se sentent légitimes aujourd'hui à se soulever quelque part ?
Est-ce qu'on peut espérer qu'ils ne se fassent pas enfumer par des discours comme on vient d'entendre, qui font de la rhétorique et qui, à longueur de journée, nous disent « Non, mais si, c'est bien, on s'adapte au changement climatique, on fait des bassines. »
Alors là, c'est assez édifiant. C'est vrai que le discours des ministres successifs de l'agriculture sont assez éloquents. Enfin, c'est des mensonges sans nom. C'est-à-dire qu'on démarre. La première chose qu'on nous a servi, c'est de dire « Enfin, des bassines, c'est génial, ça se remplit avec l'eau de pluie. » Eh bien non, désolé, monsieur de Normandie, ça ne se remplit pas avec l'eau de pluie. Et si ça se remplissait avec l'eau de pluie, ce serait 5% de la bassine qui serait remplie. Et on sait qu'il y a 60% d'évaporation, donc on peut faire le calcul.
15 ans pour remplir une bassine avec de l'eau de pluie.
Voilà. Donc, c'est un mensonge éhonté. Et maintenant, on nous dit, on va commencer à pomper dans les nappes quand la nappe débordera. Alors, nappe, elle ne déborde plus. Et on sait que de toute façon, si on suit le rapport du GIEC, on n'aura plus de nappes qui vont se remplir. Alors on a fait des seuils, par arrêté préfectoral, des seuils qui ne sont pas au remplissage total de la nappe. Et aujourd'hui, il y a un cas d'école. On parlait de la bassine de Mosée sur le Mignon. Aujourd'hui, les seuils sont atteints. Mais c'est les seuils qui sont bas. Là, encore une fois, la nappe phréatique n'est pas remplie. Et le Mignon, la rivière à côté, est à sec. Donc, cas d'école, c'est-à-dire qu'on se fout vraiment de notre gueule. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien là que le milieu, en gros, on n'en a rien à foutre. Et on va tout mettre sur l'eau pour irriguer le maïs.
Le milieu, mais également l'eau potable. Parce que du coup, derrière, on aura aussi des conséquences sur l'espèce humaine. Même si, effectivement, le milieu est la première victime de ces affres-là.
Oui, moi j'aime bien le petit extrait juste avant où on entend le petit pipeau. Effectivement, il y a une méconnaissance du cycle de l'eau de la part des ministres de l'Agriculture qui se succèdent. Une nappe qui déborde, c'est normal. Et une nappe qui déborde, c'est une source et c'est une rivière qui coule, tout simplement. Donc voilà, il faut revenir aux fondamentaux du cycle de l'eau. Et ça, ils sont visiblement pas connus par nos ministres de l'Agriculture.
Eh bien, peut-être qu'on peut enchaîner avec une chanteuse colombienne qui nous parle de résistance paysanne, comme quoi c'est un mode d'action aussi. On en reparle juste après.
De frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Fuerza la semilla, porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y le hacemos fuerza a la semilla, y porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me saca.
Du pain et des parpaings, une émission qui coule dans vos oreilles.
On va voir que si elles ont été assez bien pensées au départ, les actions de protection de l'eau passent aujourd'hui toujours après les intérêts de l'agriculture productiviste, dite l'agro-business, et de l'économie capitaliste, modèle soutenu et financé par les pouvoirs publics. Ainsi, en plus de puiser dans une ressource de plus en plus limitée en période de réchauffement climatique au risque de couper l'accès à ce bien commun à une population toujours plus nombreuse, on pollue ces ressources en y déversant allègrement déchets et pesticides, nitrates et bactéries pour le bénéfice de certains industriels puissants et au détriment du vivant et de la santé des citoyens.
Et du coup, dans cette partie qui va parler plutôt des politiques publiques et de la gestion de l'eau, on va prendre le temps de vous expliquer les quelques béabas au niveau de la réglementation, comment les lois sont censées protéger cette ressource. Et on parlera ensuite des acteurs en fait, qui opèrent au niveau de la répartition et de la gestion de l'eau sur différentes échelles géographiques, faire un petit peu de théorie. Et puis ensuite, on essaiera d'être un peu plus ludique pour parler des grands enjeux en pratique que vous pourrez ensuite comprendre avec nos différents invités qui vont pouvoir répondre à des questions. Et on prendra aussi le temps d'expliquer comment sont prises les décisions au niveau de cette ressource, quels sont les jeux de pouvoir qui peuvent exister et quelles sont les représentations qui existent, en parlant notamment du bassin Loire-Bretagne qui nous concerne plus explicitement ici. Alors pour faire assez rapide sur des parties qui peuvent être assez laborieuses à expliquer, c'est-à-dire la réglementation et les lois, on va passer assez rapidement là-dessus. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en France métropolitaine et en Outre-mer, depuis les années 60, il y a 5 grandes lois qui ont été promulguées pour protéger la ressource et la répartir équitablement entre différents usages. On ne va pas s'attarder sur les différents noms techniques, mais il faut bien garder en tête qu'il y a une grande directive européenne qui date des années 2000 qui encadre la réglementation au niveau de tous les États membres, donc y compris la France, et que cette directive européenne s'est inspirée des différentes lois qui ont été promulguées en France et qui, du coup, ont différents objectifs. notamment le premier, qui est hyper important, en fait, qui va définir l'eau comme un patrimoine commun de la nation que l'État doit protéger, notamment au travers des agences de l'eau qui sont réparties sur tout le territoire national. Donc les agences de l'eau, ce sont des émanations de l'État, on pourra en reparler tout à l'heure. Sur du coup tout le territoire métropolitain et en outre-mer, on va définir des bassins versants hydrographiques. Donc ça, c'est un peu barbare comme thème, mais c'est pour expliquer qu'on va mettre en place différentes échelles de gestion sur lesquelles on va prendre en compte les caractéristiques géographiques et hydrographiques pour définir des zones sur lesquelles on va mettre en place des plans de gestion qui sont dits comme des SAGE, donc des schémas d'aménagement et de gestion des eaux.
Caro, le lien entre les agences de l'eau et les bassins versants, là, c'est, il y en a un par bassin versant ou...
En fait, il y a 12 bassins versants en France et en Outre-mer, et il y a donc 12 agences de l'eau qui vont pouvoir œuvrer et mettre en place différents plans de gestion et organiser des instances de gouvernance avec tous les usagers pour installer des parlements locaux de l'eau. En fait, on appelle ça des comités de bassins qui vont vraiment gérer la ressource au cas par cas, des échelles très locales. Donc là, c'est des échelles qui sont théoriques, mais on va aller découper le territoire en fait, pour pouvoir prendre des décisions sur les différents cours d'eau, les différents fleuves et les différents estuaires.
Du coup, nous, notre agence de l'eau, là, ici, notre bassin versant, c'est qui ? C'est quoi ?
Au niveau du bassin Loire-Bretagne ?
C'est Loire-Bretagne.
Ouais, nous, on est sur le bassin Loire-Bretagne et qui peut être aussi subdivisé en plus petites instances, mais comme c'est très compliqué à expliquer, on s'arrête à cette échelle-là qui nous paraissait assez pertinente pour comprendre comment s'imbriquent les différents outils et les différents acteurs. Et pour revenir aux principales lois en fait, qui viennent régir la ressource en eau, elles visent aussi à surtout contrôler l'impact environnemental des différents projets d'urbanisme qui peuvent être mis en place, les différents projets agricoles et industriels que l'on voit s'implanter un peu partout sur le territoire. Et puis surtout, elles définissent aussi les responsabilités et les règles de financement en matière de distribution, donc d'eau potable notamment, mais pas que. Comment on assainit les eaux usées aussi au niveau de tous les territoires et comment on canalise les eaux pluviales. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les principales sources de financement en fait, sont portées par le contribuable. Donc toutes les opérations de gestion et tous les grands plans qui peuvent être mis en place par les agences de l'eau sont généralement financés par nos impôts. Et puis, les différentes politiques de gestion, elles visent aussi à assurer le bon état écologique des masses d'eau, notamment au niveau des nappes phréatiques, des cours d'eau et des estuaires. Donc ça, ça veut dire, en résumé et de manière assez grossière, comment on gère le caca hein, des personnes et des animaux pour pas qu'on ait de pollution bactériologique dans l'eau et qu'on soit tous et toutes intoxiqués. Et puis, comment on gère aussi les différents pesticides qu'on va pouvoir retrouver dans l'eau, les résidus médicamenteux, les engrais, les produits industriels, les ménagers, etc. Et donc ça, ça sous-entend des stations d'épuration et tout un système d'assainissement qui est très compliqué à mettre en place, qu'il faut bien avoir en tête, hein, parce que nous, on fait caca dans l'eau potable et on tire l'eau du robinet autant qu'on veut, mais c'est quand même quelque chose de très compliqué à mettre en place. Et puis, ces différentes lois, elles visent aussi à protéger la biodiversité, à protéger les écosystèmes. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez important, même si c'est souvent mis de côté sur les différents projets. Et enfin, elle vise aussi à contrôler la qualité des eaux de baignade, donc les eaux dans lesquelles on se baigne au niveau des torrents et du littoral, pour assurer une bonne qualité touristique et un bon accueil des différents touristes l'été notamment. Les différentes agences de l'eau et d'autres organismes d'État vont contrôler régulièrement les qualités des eaux de baignade, la qualité de l'eau conchiligote pour la pêche, etc. Et puis enfin, la dernière utilisation de ces lois, ça permet de réduire les risques d'inondation et de submersion, notamment au niveau des bassins versants qu'on a pu citer tout à l'heure ou sur les littoraux, en visant à s'adapter aux effets du changement climatique. Donc on voit que ces différentes lois, elles sont hyper denses, que c'est assez global et protecteur, qu'elles visent notamment l'intérêt général, la juste redistribution de la ressource en eau, qu'elle est censée protéger les écosystèmes et aussi les citoyens et les citoyennes, et que ça, c'est une grande théorie du coup dans le droit français. Mais on voit bien qu'en pratique, en fait, il y a aussi quelques travers et que sur ces différents bassins versants sur lesquels il y a des plans d'action et des instances de concertation, il y a des dysfonctionnements, qu'on octroie des aides financières de manière parfois arbitraire ou en suivant des intérêts financiers, qu'il y a des jeux de pouvoir et des jeux de représentativité qui parfois nous échappent. Et c'est Kevin qui va pouvoir nous parler de ça maintenant de manière un peu plus concrète.
Ouais. du coup, je reprends mes notes. Mais donc, en fait, là, on voulait parler surtout de la représentativité des comités de bassin, en fait. Nous, ce qui nous a choqué, en tout cas, on s'est vraiment axé, comme disait Caro, on s'est axé sur le comité de bassin de Loire-Bretagne, parce que c'est celui sur lequel, enfin, voilà, c'est celui qui nous concerne. Pour répondre rapidement à Romain, en fait, il faut se représenter que le bassin Loire-Bretagne, il va de l'Ardèche au Finistère. Enfin, voilà, c'est une sorte de grande diagonale. Donc, après, on pourra reparler de... Est-ce que ça a un sens que des territoires aussi différents, après c'est peut-être vous aussi qui allez, nos invités chéris qui vont nous répondre à ces questions, est-ce que ça a un sens qu'on mette des territoires aussi différents au niveau des précipitations, au niveau du climat, etc. Bon.
Voilà. Et de là où on va pomper l'eau aussi, parce que...
De là où on va pomper l'eau, parce qu'on avait vu, il y avait notre ami Thierry Burlot qui nous expliquait que la différence, par exemple, sur le territoire breton, où les eaux de surface sont inversement plus importantes que les eaux des nappes, en fait. Enfin, on va parler des eaux souterraines par rapport aux autres territoires. Donc voilà, après je m'écarte un peu du sujet. Ce qu'on avait voulu mettre nous en avant, c'est la représentativité des instances dans les comités de bassin. Et ça, c'est, alors on s'est un peu axé sur le bassin Loire-Bretagne, mais c'est à peu près la même chose sur tous les autres bassins. Donc sur le bassin Loire-Bretagne, il y a 190 représentants. À l'intérieur de ça, il y a une petite moitié de parlementaires et d'élus territoriaux. Il y a 37 usagers économiques. Il y a 38 représentants de l'État et des établissements publics. Et dans les usagers non économiques, donc au nombre de 37, il n'y a que 10 assos de consommateurs et 10 assos de protection de la nature.
Juste pour rebondir sur les usagers économiques, là on entend des acteurs publics et privés, c'est-à-dire par exemple des producteurs d'énergie, centrales nucléaires, barrages hydrauliques, délégataires de services privés, etc. aussi, ou les industriels.
Comment ?
Et les agriculteurs ?
Les agriculteurs sont dans les usagers économiques, ouais. Ouais. Et sont bien représentés. En fait, il y en a 37, donc il y en a 10 qui sont représentants des syndicats majoritaires FNSEA. Et non, je dis 10 représentants d'agriculteurs, et dedans, il n'y a que un bio. Voilà. En dehors de ça, en fait, on a parlé tout à l'heure rapidement de comment est-ce qu'elles sont financées, enfin comment est-ce qu'on finance notamment la dépollution. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a des redevances que l'on paye. Alors Caro, tu as parlé d'impôts. En fait, c'est la redevance, on la paye directement auprès de en tant que consommateur. En fait, en tout cas, nous, en tant que consommateurs, on paye une redevance qui va alimenter les caisses de l'agence de l'eau.
La base du financement de l'agence de l'eau, hein, c'est l'application du principe pollueur-payeur. Donc tous les usagers qui vont consommer de l'eau ou en avoir usage vont avoir une taxe à reverser à l'agence de l'eau. Et donc nous tous autour de la table, à chaque fois qu'on consomme un mètre cube, c'est ce qui était dit en début de reportage, on va verser une partie de cet argent, de ce mètre cube d'eau, à l'agence de l'eau. Voilà. Et les usagers classiques, l'usage domestique de l'eau, c'est plus de 60% du budget de l'agence de l'eau.
Parce qu'en fait, les redevances, elles sont de trois types. Il y a une redevance de pollution, il y a une redevance de prélèvement et il y a une redevance pour la protection du milieu aquatique. En fait. Donc tu parlais du principe de pollueur-payeur, donc ça c'est dans la loi sur l'eau. Alors Caro, tu pourras peut-être nous dire si c'est celle de 64 ou celle qui est plus récente. Enfin, bon, voilà. C'est un principe, en tout cas, qui a établi le principe du pollueur-payeur, c'est-à-dire je pollue, je paye. En fait, quand on analyse la répartition de la redevance, on arrive beaucoup plus à un pollué-payeur. Et y en a même qui poussent jusqu'à dire que le pollueur est payé également, puisqu'il y a aussi une injuste répartition en fait des aides. Les agences de l'eau prélèvent de l'argent, mais après distribuent des aides.
Clairement, sur les méga-bassines, on est tout à fait dans cette,
ouais, voilà,
dans ce schéma-là.
Oui, par exemple, pour revenir à la pollution agricole, hein, on donne souvent le chiffre. Alors, la politique agricole commune, c'est quand même le budget principal de l'Europe. Et on donne le chiffre souvent que le coût de dépollution de l'eau, c'est 3 fois le coût de la PAC. Voilà, et de la totalité des subventions qu'on donne aux agriculteurs. Donc voilà, principe pollueur-payeur, dans quel sens?
Ils payent quoi alors, les agriculteurs?
On va dire que les taxes payées pour la pollution ne sont pas à hauteur du préjudice porté. On appelle ça les externalités négatives de l'agriculture, et elles ne sont pas payées effectivement par les pollueurs.
Peut-être on va revenir un peu aux méga-bassines, parce qu'on avait envie de vous faire parler un petit peu de votre action là.
Alors du coup, ouais, il y a eu une réunion plénière du conseil d'administration de l'agence de l'eau Loire-Bretagne.
En tout cas, elle était prévue.
Ouais.
Elle était prévue.
Oui, donc je vais revenir à cette journée du 15 décembre, la semaine dernière, donc à l'agence de l'eau Loire-Bretagne à Orléans. Donc le but, c'était d'accompagner, de soutenir une délégation qu'on envoyait là-bas. Donc dans cette délégation, on avait mis plusieurs personnes. On avait 3 membres du collectif Bassinon Merci, hein, notamment, qui maîtrisent bien les dossiers techniques. On avait Nicolas Fortin, de la Confédération Paysanne. On avait des élus aussi qui soutiennent régulièrement la lutte. Daniel Salmon, qui est sénateur d'Ille-et-Vilaine, breton. Benoît Biteau, hein, qui est député européen. Donc cette petite délégation est rentrée dans l'agence de l'eau et, comme vous l'avez dit, était censée rencontrer l'ensemble du conseil d'administration de l'agence de l'eau, qui est une des 2 instances, hein, de gouvernance, puisque l'autre, vous l'avez cité, c'est le comité de bassin.
Et là, juste une seconde, Benoît, ouais, Biteau, donc c'est lui qui était à Sainte-Soline aussi.
Oui, exactement. Il était avec nous dans les champs.
On a entendu parler de lui.
Et Benoît Biteau, qui est quand même un des premières personnes avec Julien Leguet, dès 2008, bien avant que les collectifs BNM soient mis en place, à lutter contre les premières bassines.
Donc pour revenir à cette délégation, donc on a été un peu déçus parce que au lieu d'être reçus par l'ensemble du conseil d'administration, ces 35 personnes, il y a eu, je sais pas, un petit micmac, une petite magouille de la part de la préfète qui coordonne le bassin, et ils étaient que 8 personnes, un peu triées sur le volet à nous recevoir. Donc là on était déçus parce qu'effectivement toutes les oreilles n'étaient pas là pour entendre ce qu'on avait à dire. C'est pas grave, on a pris le temps qu'on nous donnait pour donner toutes les revendications. Alors je vais vous faire un petit résumé de ce qu'on a demandé. D'abord, la journée s'intitulait « Pas un centime de plus pour les bassines ». Donc la première revendication, c'était l'arrêt des financements publics à ces méga-bassines. Je peux donner un ordre de grandeur. Par exemple, les 16 bassines de Sainte-Soline, ça coûte 60 millions d'euros, c'est 70% d'argent public. On l'a entendu, le chiffre, tout à l'heure. Et principalement venant de l'agence de l'eau. Voilà. Donc mettre un coup d'arrêt à ces financements, c'est aussi mettre un coup d'arrêt à tous les futurs projets. Hein, et nous, on comprend pas pourquoi de l'argent public part dans ces projets-là. C'est des projets, il faut rappeler, de privatisation de l'eau et qui finalement ne profitent qu'à un tout petit nombre d'agriculteurs. Ça, c'est important. On a souligné l'inégalité, l'aspect inéquitable de cette subvention, puisqu'on estime que sur les territoires, c'est autour de 6% des agriculteurs qui profitent de ces bassines. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait des 94% d'autres qui ne sont pas financés, qui ne profitent pas de la manne de l'agence de l'eau? Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, évidemment, c'était de remettre sur la table notre histoire de moratoire, hein, pour bloquer les projets qui sont en cours, ou même celles qui sont déjà commencées, ou les pelleteuses travaillent.
Moratoire global, sur tous les projets en cours, quoi.
Sur l'ensemble.
Oui, total.
De tout le...
Bah oui, tant qu'on a... Tant qu'on...
Sur l'ensemble, tous les projets sur le territoire français, en sachant que le projet, c'est bien de faire 1000 bassines sur le territoire français.
Wow. Voilà. Et tant qu'on n'a pas éclairci toutes ces histoires de gouvernance, ces histoires juridiques, ces histoires écologiques, etc., financières, eh ben on veut stopper les choses et puis prendre le temps de réfléchir ensemble. La troisième question qui était abordée, c'était demander plus de transparence. L'agence de l'eau, c'est notre agence, c'est une agence publique, et en plus qui s'occupe d'un objet quand même important, c'est le bien commun de l'eau. Et donc nous, on a demandé pourquoi les citoyens, on n'a pas accès aux instances, pourquoi on ne peut pas assister à un conseil d'administration ou à un comité de bassin comme on irait à un conseil municipal. Voilà, la transparence est hyper importante parce que l'eau, ça nous concerne et c'est notre bien commun. La quatrième chose qui a été mise sur la table par Benoît Biteau, hein, qui le répète assez régulièrement, alors là, il a pris la préfète bien droit dans les yeux et lui a posé la question Madame la préfète, comment font les citoyens et les citoyennes pour agir, pour, quand tous les recours juridiques légaux ont été utilisés et ne sont pas respectés? Pourquoi vous nous demandez de respecter un état de droit alors que tous ces recours-là ne sont pas appliqués? On va être très concret, hein, il y a des recours juridiques qui ont été gagnés sur des bassines existantes, donc qui demandent la destruction de ces bassines-là. Ce n'est pas appliqué, ces bassines-là vont être remplies hein, cet hiver. Il y a des recours...
Celle de Mosée-sur-Lignon, par exemple, c'était sur Mignon. Ouais.
Oui, exactement. Il y a des, par exemple, sur Sainte-Soline, il y a plusieurs recours qui sont en cours, donc ils ne sont pas purgés. Donc le temps de cette justice, on devrait bloquer le chantier, et les pelleteux sont là, et le chantier démarre, quoi.
On peut aussi faire juste un tout petit mot sur le lac de Caussade, qui est quand même un scandale hallucinant.
Le lac de Caussade, c'est assez édifiant, puisque c'est des agriculteurs, c'est même le président de la Chambre d'agriculture, président de la Confédération, de la coordination rurale dans ce département-là, qui ont creusé eux-mêmes leur bassin. Hein. Ils n'ont pas attendu d'avoir les autorisations, ils ont loué eux-mêmes les pelleteuses et ils ont creusé leur bassin qu'ils utilisent désormais. Et voilà.
Alors là, on voit ça dans Envoyé spécial, La guerre de l'eau. Là, il y a une émission qu'on peut voir et revoir sur les internets.
Oui,
et qui parle
excellente
de ça.
Émission. Ouais, ouais.
Pour soutenir ce que tu dis, Virginie, hein, par rapport à l'état de droit, il faut aussi savoir que une délégation de Bassines d'Ambercy, avec encore Benoît Biteau, a été reçue par la commission Petit, commission des pétitions de la Commission européenne, et notamment au deuxième rendez-vous, on a bien vu que le gouvernement français bafouait 6 directives de la loi cadre sur l'eau européenne. Donc, avec des menaces d'astreinte et d'amende, en fait. Donc, voilà, quand on nous traite et on traite allègrement les manifestants de Sainte-Soline et qui se battent contre les mégabassines d'éco-terroristes et qui enfreignent la loi, aujourd'hui, c'est bien le gouvernement français qui enfreint la loi.
Oui, alors moi, je voulais finir, du coup, sur cette question à la préfète, hein, sur l'état de droit, parce que c'est une question qui nous anime quand même beaucoup hein, et qui ramène, justement, à pourquoi on part dans la désobéissance civile quand on est un peu énervé sur cette question-là. La préfète a conclu qu'elle ne se prononçait pas. Donc voilà, on a eu la langue de bois totale hein, ce jour-là et on n'a pas eu notre réponse.
Et si nos sources sont taries, tous nos troupeaux vont périr l'un après l'autre. Là-haut, là-haut, il faut sortir nos fusils. Là-haut, là-haut, il faut lutter pour nos vies. Mais d'abord il nous faut parler à ces gringos. Nos terres sont les plus fertiles, c'est l'eau, et nous vivions si tranquilles de nos travaux. Quand nous montions dans nos barques, lorsque nous pêchions dans le lac, heureux, heureux, ils veulent construire un barrage là-haut, là-haut, c'est la vallée qui saccage là-haut, là-haut, ils inonderont nos villages et ils nous mettront dans des cages là-haut, comme des corbeaux. Nous devons les empêcher là-haut, là-haut, de détruire nos foyers. Si beau, si beau, tous les hommes vont s'armer. Les femmes vont les aider. Il faut de l'eau. Il faut de l'eau. Il faut de l'eau. De l'eau.
Donc pour revenir faire un focus sur ici concrètement où on a les pieds aujourd'hui, on est sur un terrain de Philippe Béguin. Philippe, il est paysan sur la commune de Ron, juste à côté. Et Philippe, il a un témoignage qui est vraiment... c'est un beau témoignage d'un ancien irrigant, en fait, qui a fait le choix d'arrêter l'irrigation. Il devait être connecté à la bassine de Ron. Il s'est posé des questions, il s'est dit « Ah ouais, alors combien ça va me coûter ? Combien il va falloir que je produise en plus pour que ça devienne rentable pour moi ?» Et au final, il s'est dit « Ben, vu que je peux pas faire deux récoltes de maïs dans l'année, ben, je vais faire du blé en sec. » Voilà, donc il a choisi d'arrêter l'irrigation. Et aujourd'hui, il est à nos côtés. On a le Béguin avec nous. Merci, merci, merci Philippe.
Alors là, on a eu donc Philippe Béguin, donc ce cas d'un agriculteur qui a changé de modèle, d'abord pour des raisons économiques, mais en fait, c'est quand même, ça va avec aussi ces pressions écologiques. Lui, il est passé sur du blé pour avoir moins besoin d'eau. Il s'adapte intelligemment, on pourrait dire, à ses problèmes d'eau. Donc on va essayer d'aborder un peu tout ce qui peut se faire aujourd'hui dans ce domaine d'adaptation au changement climatique et puis les solutions d'irrigation intelligente, on va dire, ou respectueuse. Donc qu'est-ce que vous avez à nous raconter
Bon, je vais essayer d'être un peu synthétique. Ces bassines, elles servent à qui ? Elles servent actuellement à l'agriculture intensive. Alors, quand on parle d'intensif, on veut maintenir à tout prix des cultures à rendement avec ce qu'on appelle l'utilisation massive d'intrants. Ça va être des engrais, des produits phytosanitaires et une utilisation massive d'eau également. Il y a cette ressource-là. Donc, nous, ce qu'on propose, ce que beaucoup de gens proposent dans la lutte, c'est l'alternative de passer de ces systèmes-là à ce qu'on appelle l'agroécologie. L'agroécologie, c'est le contraire de ces systèmes intensifs qui sont simplifiés à l'extrême. L'agroécologie, c'est avoir des systèmes agricoles qui sont calqués sur le fonctionnement des écosystèmes naturels. En gros, un écosystème naturel, c'est riche, c'est diversifié, il y a tout un tas d'éléments fonctionnels qui vont interagir entre eux. Pour reprendre vraiment le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, l'eau, je vais donner des choses très concrètes. On a besoin que, avant de parler même d'irrigation, que l'eau s'infiltre dans les sols et qu'elle se stocke dans les sols. Donc ça, on a besoin de haies, on a besoin de talus, on a besoin de couverts végétaux permanents où les racines vont aider à l'infiltration de l'eau, on a besoin de sols qui sont vivants, c'est-à-dire où on a toute cette communauté de vers de terre qui va amener de la porosité, qui va faire que l'eau s'infiltre, on a besoin de sols qui sont vivants aussi et fonctionnels par rapport à leur richesse en matière organique. Alors là, c'est la matière organique, je vais citer le mot, c'est l'humus des sols, hein, cette terre noire dont on parle souvent, et l'humus, ça stocke 5 à 6 fois son poids en eau. Donc je pense que ça fait du taf sur une parcelle. Hein, voilà.
Trop bassine, on pourrait dire.
Ouais, c'est les super pouvoirs de l'humus par rapport à la bassine. Hein, je préfère ça, moi, une grosse bassine en plastique. Donc voilà, remonter de quelques points l'humus des sols, hein, de ces sols qui sont assez matraqués par l'agriculture intensive. Dans les d'autres éléments fonctionnels des agrosystèmes, c'est évidemment les nappes phréatiques et les zones humides. Une zone humide, par exemple, alors on parle beaucoup, il faut capter cet excès d'eau. L'excès d'eau, il est stocké par les zones humides l'hiver et on appelle ça une zone tampon et ça restitue tout simplement l'eau en début de printemps, en fin de printemps et en début d'été quand on en a besoin. Donc voilà, la zone humide est une bassine en soi, hein, mais encore faut-il que ces éléments, on les ait gardés sur nos territoires, ce qui n'est pas le cas. Quand on entendait l'agriculteur parler, lui, il a fait des choix de systèmes différents, c'est-à-dire qu'il y a des solutions toutes simples, c'est changer de culture, hein, et aller taper dans des variétés ou des espèces qui sont beaucoup plus économes en eau. Alors là, je parle, évidemment, on va tous penser au maïs. Le maïs, plante tropicale, là-bas, dans les tropiques, quand il fait chaud, c'est la saison humide. Chez nous, là, quand il fait chaud l'été, de plus en plus, c'est la saison sèche. Donc, ça n'a pas de sens de continuer de maintenir à vouloir faire des cultures de maïs. Donc, il va falloir changer tout simplement le système agricole en profondeur. Voilà. Et donc, pour mettre un mot, nous, ce qu'on demande, c'est de remettre notamment des financements publics, hein, ces financements pour les bassines, de les utiliser pour construire des systèmes agricoles qui soient avant tout résilients. La résilience, c'est la capacité de s'adapter à ces changements climatiques, notamment.
Et une petite question par rapport au maïs, justement. Moi, je pense que ça pourrait être important pour que les auditeurs et les auditrices se projettent, c'est qu'on cultive du maïs pour faire de l'élevage, notamment, et si on parle de la Bretagne, d'élevage porcin, pour ensuite, du coup, faire des exportations au niveau de la Chine, notamment, qui mange de plus en plus de porc, et aussi du beurre et du lait, etc. Donc, en fait, c'est que, politiquement parlant, on est en train d'encourager une agriculture qui est productiviste et vraiment dans l'agro-business, et pas du tout pour nourrir les populations, comme on nous le fait entendre régulièrement, c'est-à-dire qu'on fait pousser des céréales pour exporter de la viande qui pollue énormément et qu'en fait on défend un modèle productiviste qui pourrait être vraiment beaucoup plus localisé, végétalisé et donc réduire les parcelles qui pourraient être mises en culture et aussi réduire notre consommation en viande, produire des espèces qui étaient cultivées par nos aïeuls, qui étaient beaucoup moins énergivores et moins consommatrices en eau et changer nos régimes alimentaires et notre manière de consommer aussi. Et donc en fait c'est pas juste une transition agricole, c'est aussi revenir sur des consommations et par exemple diminuer les régimes carnés et revenir un peu sur les terres de nos ancêtres quoi.
D'ailleurs, c'est un peu ironique que le ministère de l'Agriculture s'appelle aussi le ministère de la Souveraineté Alimentaire. C'est pas exactement comme on l'entend, nous. Là, on arrive au terme de l'émission. On s'était un petit peu aussi... on avait lu un peu en diagonale le dossier de la conf qui s'appelle « Irriguer, oui, mais pourquoi faire ?» qu'on peut retrouver sur le site de la conf et qui est intéressant sur ces questions de « irriguer, oui, en fait, on a besoin d'eau pour cultiver, mais comment on le fait intelligemment ?» Peut-être vraiment un tout dernier mot parce qu'on arrive au terme.
Ça va être très, très, très dur. De le faire rapidement, je vais essayer quand même. Non, c'est juste pour dire que on vient de créer, il y a 15 jours, un bassin non merci Finistère, donc 29. Alors vous allez me dire, mais pourquoi diable un bassin non merci 29 mais il n'y a pas de méga bassin dans le Finistère. Non, certes,
pas encore.
Ça va peut-être arriver et on a une première alerte en septembre. Avec le premier forum de l'irrigation en Bretagne qui avait été organisé par la Chambre d'agriculture, Braise Irrigation et la FNSEA bien sûr. Et là, il y a quand même une petite musique qui monte très clairement, c'est de dire qu'effectivement, on va avoir besoin aussi d'irriguer, d'arroser en Bretagne dans le Finistère. Donc faisons des réserves d'eau. Alors on va se mettre en veille, effectivement. Ça va être un de notre gros objectifs du collectif. On va être en veille pour voir quelle tambouille va être faite dans ces instances. Et deuxième objectif, bien sûr, du collectif, c'est de soutenir toutes les luttes des méga-bassines dans les Deux-Sèvres et ailleurs, en faisant des réunions publiques sur le territoire finistérien pour appeler massivement à nous rejoindre tous le 25 en Poitou-Charentes.
Notez dans vos agendas.
Hein. Le 25 mars,
excusez-moi, le 25 mars
en Poitou-Charentes. La date est connue, le lieu exact.
En Poitou-Charentes.
Sera donné.
Où on espère être des dizaines de milliers.
Pour pas une bassine de plus.
Et nos bassaranes !
Nos bassaranes,
tout le monde. On annonce donc peut-être notre prochaine émission qui va parler de l'usine à saumon à Plouizy. Donc n'hésitez pas à aller voir tous les sites internet, hein, Bassin Non Merci, les soulèvements de la terre. 5 et 6 janvier, donc une action, Baptiste, tu peux nous dire juste une seconde.
Ouais, les 5 et 6 janvier, on a la prolongation de ces procès un peu bâillons, avec à La Rochelle le 5 et à Niort le 6, la comparution d'inculpés pour des désarmements de bassines qui ont eu lieu avant Sainte-Soline, déjà avant Sainte-Soline, et là encore une répression massive du système judiciaire, en plus du système exécutif, enfin en plus du pouvoir exécutif.
Ok, donc les occasions manquent pas de se mobiliser.
Et petit concert le 6 ce soir, à Niort.
Oui, le printemps va être chargé, je pense.
On vous en reparlera parce qu'on va se retrouver d'ici là. Déjà tous les dimanches à 19h sur Radio Piquet, il y a un créneau écologie politique. Voilà, donc n'hésitez pas à être à l'écoute de ces créneaux-là pour apprendre plein de choses sur ces sujets et d'autres qui concernent les luttes et les possibilités d'agir contre l'agro-industrie.
Voilà, c'est tout.
Et puis un grand merci aux radios qui nous diffusent. Autre que Radio Piquet, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, des actions, des événements annoncés à documentaire au pluriel radio@riseup.net. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous et d'avoir fait la route.
Merci de votre invitation.
Merci, merci.
Salut tout le monde.
Salut.
Terrorist, 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 T-E-R-R-O-I-N.
hold on before you start the next record. Take me to a commercial. All right.